Bonjour à tous. Donc, je vais faire une courte présentation avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Andor Ismail, je suis scénariste de bande dessinée, autrice de romans jeunesse, autrice de romans adultes et également professeure de SVT en collège. Voilà. Et donc, je vais vous faire aujourd'hui un cours de vulgarisation sur l'épigénétique. Donc, en sachant que la génétique, ça reste une science qui est relativement récente à l'échelle de l'humanité, puisque la modélisation de la molécule d'ADN, c'est dans les années 50. Le séquençage du génome humain, c'est en 2003. Et donc, on a pu se dire en 2003, ça y est, on a tout découvert, on a séquencé le génome humain. Ouh ! On n'avait pas fini du tout. Juste une petite statistique avant de commencer. En fait, l'ADN qui sert à quelque chose, entre guillemets, dans notre organisme, dans nos cellules, c'est 2% de la quantité d'ADN totale. 98%, on ne sait globalement pas à quoi il sert. Donc on va voir un petit peu à quoi il sert aujourd'hui, parce qu'il a une utilité. Oui, merci. Il a une utilité quand même. Donc on va commencer par... définir légèrement l'épigénétique. Qu'est-ce que ça a de différent avec la génétique ? Donc globalement, la génétique, c'était l'idée que un morceau d'ADN égale une protéine. Voilà, ça sert à fabriquer ça. L'épigénétique, c'est quelque chose dont on a conscience depuis très longtemps. C'est ce qui va moduler l'action des gènes. D'accord ? Tout simplement, je vais prendre un exemple relativement simple. Vous avez plein de cellules dans votre corps. Elles ne servent pas toutes à la même chose. Il y en a certaines qui sont là pour faire circuler du dioxygène dans vos vaisseaux sanguins, il y en a certaines qui sont là pour digérer les aliments que vous avez mangés, il y en a d'autres qui servent à la communication neuronale, il y a des hormones qui se baladent. Bref, il y a tout un tas d'objectifs différents pour vos cellules dans votre corps, selon où elles sont placées et à quoi elles servent. D'accord ? Il faut des gens qui leur disent à ces cellules, puisqu'elles ont toutes le même bagage génétique. Elles contiennent toutes exactement les mêmes gènes. Donc, à un moment, il va falloir leur dire « ça, c'est utile pour toi, ça ne l'est pas ». Par exemple, vos cellules au bout du gros orteil, elles savent de quelle couleur sont vos yeux, mais ça ne leur sert à rien. D'accord ? Donc, du coup, il faut des mécanismes pour dire à une cellule « ça, tu en as besoin, ça, tu n'en as pas besoin ». Et tous ces mécanismes qui vont servir à la régulation de vos gènes, qui vont dire à un gène « toi, tu t'exprimes pas », c'est les mécanismes de l'épigénétique. Voilà. Ils servent à moduler l'expression des gènes au sein de l'organisme. Donc, comme je vous disais, ça, c'était quelque chose dont on avait conscience depuis longtemps, puisque ça va déterminer ce qu'on appelle la différenciation cellulaire au moment de la création de l'embryon. Toi, tu es une cellule du système nerveux, toi, tu es une cellule de l'intestin, vous n'êtes pas au même endroit, vous ne servez pas la même chose, vous n'avez pas les mêmes besoins. Ce qui est récent dans l'épigénétique, c'est qu'on s'est rendu compte que ces mécanismes ne servaient pas que à la différenciation cellulaire. Donc déjà, certains de ces mécanismes vont être réversibles ou pas. Ça dépend vraiment de à quoi ils servent, ce qu'ils font, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ça n'est pas figé, ce n'est pas qu'au moment de l'embryogenèse. Il se passe d'autres choses après, on va voir quoi. Ils sont influencés par l'environnement au cours de la vie, après l'embryogenèse. Donc par exemple, ça explique les pourcentages qu'on avait au niveau des jumeaux monozygotes. Alors, un jumeau monozygote, ils sont deux, ils sont issus de la même fécondation. D'accord ? Il y a eu un seul œuf, une seule fécondation, donc techniquement, biologiquement parlant, c'est des clones. Ils ont le même bagage génétique, il devrait leur arriver, biologiquement parlant, la même chose. Ce n'est pas le cas du tout. Déjà, si on pense schizophrénie, 50% seulement des jumeaux dont l'autre est atteint de schizophrénie ont un risque. Ils n'ont que 50% de risque d'avoir également la maladie. Plus impactant encore, parce que la schizophrénie, on pourrait se dire oui, mais non, mais c'est le vécu. Plus impactant encore, le diabète insulino-dépendant. Le diabète insulino-dépendant, c'est une maladie auto-immune qui consiste pour les globules blancs à aller détruire les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas qui fabriquent l'insuline. D'accord ? Ce diabète insulino-dépendant, il est donc déterminé par les leucocytes, les globules blancs qui sont chez l'individu, qui sont eux-mêmes déterminés génétiquement, eh bien, si l'un des deux jumeaux monozygotes déclenche un diabète insulino-dépendant, l'autre n'a que 30% de risque d'en déclencher un aussi. Donc là, on voit bien qu'il se passe des choses qui font qu'il n'y a pas que la génétique qui rentre en ligne de compte. Il se passe d'autres choses à côté. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant. Et alors, très, 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 très récemment, dans les 5 dernières années, on est allé encore plus loin parce qu'on s'est rendu compte que nos traumatismes, notre vécu, le vécu de nos parents, le vécu de nos grands-parents, laissaient un impact dans notre épigénétique. Donc là, c'était très très fort. C'était très très fort et puis c'était, entre guillemets, inquiétant. Donc je vais vous raconter brièvement l'expérience qui a permis de mettre ça en évidence. Donc c'est une expérience qui a été menée sur des rats, qui sont souvent utilisés en laboratoire quand même. Et donc pour ces rats, on a traumatisé les mères en les empêchant de dormir, en leur mettant des décharges électriques, en les aspergeant d'eau froide au moment où elles essayaient de s'assoupir, des trucs pas très sympas. Et donc on leur a fait faire des petits et on a étudié le comportement de ces petits en situation de stress. Pour ne pas perturber l'expérience, ces petits n'ont pas été élevés par leur mère. D'accord, il y a eu un échange, on les a fait élever par des mères qui n'avaient pas été traumatisées du tout. Le résultat, c'est que soumis à une situation de stress qui est, vous allez vite la comprendre, on prend un grand seau, il est plein d'eau, on ne peut pas remonter les bords, on met le rat dedans. Voilà. Les petits dont les mères avaient été soumises à un traumatisme luttaient à peu près 3 fois moins longtemps. Ils arrêtaient de nager beaucoup plus vite. Alors, il y a 2 interprétations possibles, l'optimiste, la pessimiste. Victime de traumatisme, on résiste moins au stress, on arrête de lutter beaucoup plus vite, ou en tout cas quand la famille a été victime de traumatisme. Ou l'autre possibilité, à savoir la résilience. Le rat arrête de lutter en attendant que sa situation s'améliore pour garder ses forces au cas où une opportunité se présenterait. Les 2 sont possibles. Comme on ne sait pas encore parler, le rat, on ne sait pas. Voilà. Donc on va voir tout ça un petit peu. Okay ? Et comme je ne vous connais pas... Je vais commencer d'abord par rappeler un petit peu toutes les bases de la génétique globale, la génétique en général, comment ça fonctionne, l'ADN, tout ça, pour qu'on ait un petit vocabulaire commun. Donc, dans un premier temps, on va voir comment on passe de l'ADN à un organisme complet, comment ça marche, quelles sont les différentes étapes. Quand on aura fait ça et qu'on sera à peu près d'accord sur comment c'est fait, on verra les mécanismes de l'épigénétique. Donc, quels sont ces mécanismes ? Est-ce qu'on les a identifiés ? Certainement pas tous, hein. Je rappelle 98% de l'ADN qui est inconnu, bon, on n'est pas sorti des ronces, mais on en connaît au moins 3, d'accord ? Donc là, il y en a 3 où on les a vus faire, on a pu jouer avec, on sait que ça marche. Et enfin, l'aspect transgénérationnel et environnemental qui est sans doute l'aspect le plus intéressant, le plus récent, et qui est pas mal étudié donc, dans l'espèce humaine à cause des récentes découvertes, qui est très impactant dans le monde animal. On ira voir ça. On espère que c'est moins impactant chez l'homme, mais bon, on va voir. Alors déjà, l'ADN. Donc l'ADN, tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. L'ADN est composé donc, d'une double hélice, qui est le plus à droite là, qui est elle-même composée d'un groupement sucre, le désoxyribo, d'un groupement phosphate, et de nucléotides, il y en a 4. Donc l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, qui ne fonctionnent que 2 par 2. C'est-à-dire que une cytosine sera toujours en face d'une guanine, une adénine sera toujours en face d'une thymine, et inversement. D'accord ? D'où le petit nom de l'ADN. Donc c'est l'acide, parce qu'il a un groupement acide, désoxyribo pour le sucre, nucléique pour le nucléotide, qui est sur les barreaux de l'échelle. Donc en gros, avec ces 4 lettres-là, on écrit l'intégralité du monde vivant sur la planète. D'accord ? Cette molécule est commune à l'intégralité des êtres vivants. Vous la partagez avec la mousse, l'algue, le champignon, etc., etc. C'est la même. 4 lettres pour écrire la Bible du monde vivant sur la planète, parce qu'il y a des milliers de combinaisons possibles, bien évidemment. D'accord ? L'ADN, il est dans toutes les cellules de votre corps, dans son intégralité. Toutes les cellules possèdent l'intégralité de vos informations génétiques. C'est ce qui a permis de faire du clonage. Avec une cellule, on refait l'organisme entier sans problème. L'ADN, bien sûr, il n'est pas laissé à vide dans les cellules. Donc en haut, là, vous avez la double hélice qui fait à peu près 2 nanomètres. Elle va être compactée à l'intérieur de la cellule, parce que sinon, elle fait 2 mètres, ça déborde. Donc elle est compactée autour des nucléosomes, là, que vous avez ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai lâché mon pointeur. Là, voilà le nucléosome. Donc il contient 8 sous-unités, d'accord ? 8 sous-unités de nucléosomes, donc c'est des histones qui sont regroupés pour former le nucléosome autour duquel la double hélice va s'enrouler pour être compactée sous sa forme qui est la plus connue, voilà, le chromosome. D'accord ? Donc c'est vraiment une pelote de laine, sauf que c'est de l'ADN. Alors là, ce que vous avez ici, c'est des vrais chromosomes photographiés au microscope électronique à balayage. En l'occurrence, ce n'est pas n'importe quel chromosome, puisque là, vous avez un chromosome X, et là, vous avez le chromosome Y. D'accord ? Donc ça m'amène à vous expliquer ce que vous avez dans vos cellules. Il y a 46 chromosomes en tout, ce qui représente beaucoup, beaucoup d'ADN. Vous avez 46 chromosomes qui sont regroupés par paires. Ils sont tous par deux. D'accord ? Il y a une paire de chromosomes 1, une paire de chromosomes 2, une paire de chromosomes 3, etc., etc. Jusqu'à la paire de chromosomes sexuels, qui est un double X chez la femme, un X et un Y chez l'homme. Il y a une paire qui est spécifique selon le sexe de l'individu. Alors, figurez-vous que cette immense bibliothèque d'ADN, elle n'est pas rangée n'importe comment. On le devine un petit peu, puisque si on arrive à classer les chromosomes par paire, c'est qu'ils ont quelque chose en commun. La chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils contiennent le même type d'information génétique. Par exemple, vous avez tous votre gène du groupe sanguin qui est situé en bas de la paire de chromosomes numéro 9. Voilà. Et comme elle est moyennement bien classée, le rhésus qui vous dit si vous êtes plus ou moins, c'est sur le chromosome 1. Mais on s'y retrouve. Voilà. Donc, vous avez des gènes qui sont situés sur les différents chromosomes. Et le décryptage du génome humain dont je vous parlais tout à l'heure, c'est lié à ça. C'est-à-dire que maintenant, on sait quel gène est à quel endroit et comment c'est rangé dans la grande bibliothèque de notre ADN. Comme on a deux chromosomes pour chaque paire, ben, ça veut dire que tous les gènes que vous possédez sont présents en deux exemplaires. Voilà, vous avez deux chromosomes 9, donc vous avez deux gènes du groupe sanguin. Le truc, c'est que vous êtes bien conscient que vous n'avez pas tous le même groupe sanguin, parce que le gène, il ne raconte pas tout le temps la même chose. Le gène, il va être... Alors là, ils l'ont mis en haut. Voilà. Mais bon, comme un chromosome, ça bouge, on va dire juste qu'il est la tête en bas. Donc, le gène va pouvoir contenir différents types d'informations. On appelle ça les allèles. D'accord ? Il peut y avoir des centaines d'allèles pour un gène donné. Genre vraiment des centaines, il y en a plein. Bon, vous n'avez que deux chromosomes, donc vous n'avez que deux allèles qui sont directement liés aux allèles que vous ont donné vos parents. On verra ça tout à l'heure. Les allèles, donc, on va prendre le gène du groupe sanguin parce qu'il est hyper simple. Là, il y en a trois, des allèles. Il y a le A, le B, le O. Si vous avez deux allèles A, le premier chromosome dit « moi, je fabrique des protéines A », le deuxième dit « bah moi aussi, super ». Voilà, vous êtes du groupe A. Si vous avez un allèle A et un allèle O, le premier chromosome dit « moi, je fabrique des protéines A ». Le deuxième dit « moi, je fais rien ». Voilà, il y a quand même fabrication de protéines A, vous êtes du groupe A. Si vous avez un allèle A, un allèle B, cette fois-ci, il y en a un qui fabrique des protéines A, l'autre qui fabrique du protéine B, vous êtes du groupe AB. Si vous avez un allèle B, un allèle O, que des protéines B. Si vous avez deux allèles O, eh ben, il n'y a rien sur vos globules rouges, absolument rien, parce que forcément, il n'y a pas de protéines, puisqu'il n'y en a aucun des deux qui veut travailler. Et si vous avez deux allèles B, vous n'avez que des protéines B, donc vous êtes du groupe B. D'accord ? Donc ça, c'est comment fonctionne la génétique classique. Un gène, une protéine, c'est plus compliqué que ça, mais on ne va pas rentrer dans le détail, parce que sinon, on est encore là demain. Mais en gros, un gène, une protéine, et on pensait que ça marchait comme ça. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que des fois, on se retrouve avec un papa qui est AB, mettons, donc qui est capable de donner A ou B à ses enfants, une maman qui est A, mettons, et puis l'enfant, il est O. Est-ce que maman aurait été voir ailleurs ? Non. Voilà, non. Non, parce que entre le moment où la cellule lit ce qui a marqué sur le chromosome et le moment où la protéine arrive à la surface du globule rouge, il se passe plein de trucs. La protéine, il faut la fabriquer, il faut la déplacer. Il y a plein de trucs. À n'importe quel moment, l'organisme peut dire « En fait, cette protéine que tu as fabriquée, non. » Ou alors au contraire « Ah oui, il y a écrit un truc, je ne vais pas le lire. Voilà. » Et donc du coup, la personne se retrouve à être du groupe O. Alors que dans ses gènes, il y a bien des informations pour fabriquer une protéine. Ça, ce mécanisme de régulation de l'expression du gène, c'est l'épigénétique. D'accord ? Et ça arrive tout le temps. On va essayer de voir comment sont transmises les informations génétiques au sein des familles pour essayer de comprendre la transmission globale. Voilà. Alors, le père, comme la mère, possède 46 chromosomes. Dans un souci de clarté, nous allons travailler avec 4, voilà, qui sont en deux paires. Vous avez une paire de grands chromosomes ici, une paire de petits chromosomes. Au moment où on fabrique les gamètes, qui sont les cellules sexuelles, donc là, ici, pour le papa, les spermatozoïdes, pour la maman, les ovules, on va prendre, au hasard, un chromosome de chaque paire. OK ? Un chromosome de chaque paire, donc, soit je prends le chromosome ici, bleu foncé, et je mets le petit chromosome bleu foncé, hein, possibilité A, ou bien le chromosome bleu foncé, le chromosome bleu clair, possibilité B, le chromosome bleu clair en premier, puis le foncé, possibilité C, etc., etc. Alors là, 4 chromosomes, 4 possibilités, facile. 6 chromosomes, 8 possibilités. 46 chromosomes. Non, je le connais. 8 388 608 possibilités par personne. Vous n'avez pas les mêmes que votre voisin, d'accord ? Chacun, chaque personne, 8 388 608 possibilités. Et ça, c'est sans tenir compte de tous les autres événements qui se produisent dans la cellule au moment de la fabrication des gamètes et qui font que, pratiquement, il y a très peu de chances que vous fabriquiez deux fois le même gamète. Voilà, mais globalement, ça se passe à peu près comme ça. Alors donc, quand des personnes décident de se reproduire et que nous avons 8 388 608 possibilités de chaque côté, alors là, par contre, celui-là, je ne le connais pas par cœur. Après, il y a la fécondation. Et alors la fécondation, voilà, c'est 8 millions de possibilités de spermatozoïdes multipliées par 8 millions de possibilités d'ovules. Hein. On ne les fabrique pas tous. Il y a 70 368 milliards, 744 177 664 fécondations possibles par couple. Si vous changez de partenaire, ça recommence. Voilà, donc bon, la possibilité d'avoir deux fois le même enfant est faible, à part si on fait des jumeaux monozygotes, on a vu. Hein. Et globalement, personne sur la planète n'a jamais eu votre patrimoine génétique, personne sur la planète ne l'aura plus jamais. Parce que comme on multiplie la quantité de possibilités à chaque génération, on est à peu près certain que ça ne se produira pas. Donc en fonction des allèles des parents, il est possible de prévoir les allèles des enfants. Enfin, prévoir, on se comprend. Donc par exemple, mais j'ai pas gardé les mêmes. Donc ici, nous avons le papa qui est du groupe sanguin A+. Nous voyons que sur ses chromosomes, en haut de la paire numéro 1, il a un plus. Sur son autre chromosome 1, il a un moins. Et puis, il est OA au niveau de la paire numéro 9. La maman, là-bas, elle est OB. Ça fait B+, sinon elle a à peu près les mêmes allèles que le papa. Donc, nous savons qu'avec 4 chromosomes, oui, nous avons 4 possibilités de gamètes différents, j'en ai sélectionné 2 au hasard, ce qui nous a donné un enfant qui est du groupe sanguin O+, puisqu'il a reçu de son papa le plus et le O, et de sa maman le plus et le O également. D'accord ? Mais la quantité de fécondation possible pour ces 4 gènes-là spécifiquement pris parmi les 46, eh ben, c'était 4 possibilités pour le papa multipliées par 4 possibilités pour la maman. Donc on avait 16 possibilités d'appariement de groupes sanguins différents, en sachant qu'il n'existe pas 16 groupes sanguins différents. Donc il y avait juste un pourcentage différent d'occurrence des groupes sanguins en fonction des fécondations possibles. Je ne vous ai pas mis le tableau, je vous ai épargné ça. Je ne me souviens pas des chiffres. Voilà. Donc, du coup, ça, on a vu, c'est quand ça se passe super, mais des fois, il y a l'épigénétique qui rentre en ligne de compte, et donc on se retrouve avec un papa AB, une maman B et un enfant O. Ça marche quand même, hein, c'est pas grave du tout. Alors justement, puisqu'on a vu qu'on pouvait empêcher la fabrication des protéines, comment on fabrique une protéine ? Voilà. Alors, reprenons. Vous avez votre double hélice d'ADN, que voici, que voilà, qui va s'ouvrir globalement à peu près comme une fermeture éclair. Et comme on a vu que l'adénine elle est en face d'une thymine, la cytosine elle est en face d'une guanine, et ben quand on copie, en fait, on garde exactement la même chaîne en face. On va, cette fois-ci, non pas fabriquer un ADN, mais fabriquer un ARN, dit ARN messager. Parce que votre ADN, il n'a pas trop le droit de sortir du noyau, hein, il est à l'abri, là on va le garder précieusement, c'est quand même votre code source, on va éviter de l'abîmer. Donc du coup, pour fabriquer la protéine en dehors du noyau, on fabrique cet ARN messager qui reprend le code du brin qui est lu, hein, qui est appelé le brin transcrit, ici, voilà, et qui reprend ce code et qui va sortir, lui, du noyau pour aller faire son travail. Donc il y a des nucléotides libres dans le noyau qui vont se mettre en face du nucléotide auquel ils correspondent et ça fait cette deuxième chaîne d'ARN messager en sachant que l'ARN ressemble à l'ADN. Il y a une différence qui est notée en bas. Voilà, ici, donc l'ADN c'est adénine, thymine, guanine, cytosine. L'ARN c'est adénine, uracile, guanine, cytosine. La thymine est remplacée par l'uracile, c'est une autre molécule. Voilà. Mais sinon ça se ressemble quand même beaucoup. Donc mon ARN messager, c'est un petit peu la molécule qui va dans le noyau, qui dit « qu'est-ce que tu veux que je fasse ?»« D'accord, ok, alors je copie les consignes et puis je vais dire ça au producteur. » Bon, qu'est-ce qu'il fait après ? Ben, il sort. Alors il y a un phénomène d'épissage, je me suis demandé si j'allais... En gros, dans l'ARN messager, il n'y a pas tout qui est utile, donc des fois on en enlève des bouts et on fait un truc vraiment fonctionnel. Voilà. Donc après, on sort du noyau, on arrive... dans le corps cellulaire, ceci est une cellule, ceci est le noyau. Voilà. Donc on arrive dans le corps cellulaire et là mon ARN messager, il va être lu à nouveau, voilà, par les gens qui vont fabriquer le machin. C'est une chaîne de production. Hein. Il y a celui qui va chercher, il y a le contremaître qui a été chercher les ordres, il est descendu, il dit au producteur, vous faites ça. Donc du coup, les producteurs qui font, c'est ici le ribosome. Hop là. Alors le ribosome, lui, il ne va pas lire l'ADN comme l'ARN messager en reprenant exactement les bases, etc. Il va le lire en mettant des acides aminés. Vous avez votre chaîne d'ARN messager qui est là. Et en fonction des nucléotides qui sont sur l'ARN messager, un groupe de 3 nucléotides va donner un acide aminé. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le code génétique. Quand on parle de lire le code génétique, on parle de ça. Du coup, on lit l'ADN et puis on lit alors adénine, uracile, guanine, ok, c'est tel acide aminé. Après, c'est guanine, 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 ok, c'est tel acide aminé. Après, etc., etc. Et ils accrochent les acides aminés les uns derrière les autres et ça forme une protéine. D'accord ? Et vous avez vu, il y a déjà plein de moments où on aurait pu arrêter la fabrication de la protéine, hein. On aurait pu empêcher la synthèse de l'ARN messager, on aurait pu le détruire en cours de route, on aurait pu dire au ribosome « non, 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 tu t'en occupes pas ». Voilà, on aurait pu faire plein de choses. On peut même détruire la protéine encore maintenant, avant qu'elle aille faire ce qu'elle est censée faire. La protéine, une fois qu'elle est construite, elle va aller accomplir son devoir de protéine. Ça dépend ce que c'est. Ça peut être une enzyme pour aller digérer quelque chose que vous avez mangé. Ça peut être une hormone qui va aller porter un message à l'autre bout de l'organisme. Ça peut être un neurotransmetteur qui va se contenter de passer d'un neurone à l'autre. Ça peut être une protéine de structure qui va aller faire des gaines autour de vos nerfs. Ça peut être tout un tas de trucs. D'accord ? Il y a des protéines qui bossent, il y a des protéines qui se fixent, il y a des protéines qui ont un usage unique, entre guillemets, d'autres qui vont être là pour longtemps. Ça dépend. Mais en gros, c'est comme ça qu'on fabrique une protéine. Donc du coup, maintenant qu'on a vu comment la génétique fonctionne en gros, c'est-à-dire l'ADN, les gènes, la fabrication de la protéine, et normalement tout va bien, allons voir comment fonctionne l'épigénétique. Alors, il y a 3 mécanismes d'épigénétique, et le premier mécanisme d'épigénétique, c'est la méthylation de l'ADN. On va faire un peu de chimie. Ceci est un groupement méthyle. Voilà, avec un carbone. 3 hydrogènes. Généralement, la méthylation de l'ADN a lieu sur la cytosine. On se rappelle, la cytosine, hein, avec l'adénine, la thymine, la guanine, tout ça, bon, c'est une des 4 bases qui composent l'ADN. Dans l'ADN, à chaque fois qu'une cytosine est suivie par une guanine, on la méthyle. Voilà. Sur son 5e carbone, on rajoute un groupement méthyle. Alors pas nous, hein. Il y a une enzyme qui est faite pour ça, voilà, qui s'en occupe. C'est un petit peu comme le CCDI. Vous voyez, ça c'est un C classique, ça c'est un CCDI, ça dépend de ce qu'il y a après. Des fois on met des CCDI parce que la lettre d'après réclame qu'on mette un CCDI. C'est la même. Le problème que ça pose, enfin, si on peut estimer que c'est un problème, c'est que la méthylation de l'ADN va ralentir la lecture. D'ailleurs, qu'on arrive sur un groupement méthyle, on arrive sur un CCDI, ah oui, c'est vrai, il y a un CCDI, voilà. Ça ralentit la lecture de l'ADN. Et donc, plus il y a de groupements méthyle, plus l'expression du gène va être inhibée. D'accord ? Alors, ça se transmet de cellule à cellule. Au moment de la division cellulaire, là. Vous avez donc deux cytosines qui sont méthylées parce qu'il y a une guanine après. Ah, j'ai oublié de vous dire ça. Il y a un brin d'ADN qui se lie dans ce sens-là, il y a l'autre brin d'ADN qui se lie dans ce sens-là. C'est comme une autoroute à double sens, hein. Ils ne se lisent pas dans le même sens les deux. Donc celui-ci est bien suivi par une guanine et celui-ci aussi, c'est juste qu'on n'est pas dans le même sens. Donc les deux sont méthylés sur le brin original. On réplique l'ADN, on le coupe en deux. Il y a l'ancien brin qui est ici, le nouveau brin qui est là. Et ici, hop, oui, ils me les ont inversés, d'accord. Voilà, on a la méthylation qui n'est donc que sur un seul des deux brins. Mais il va y avoir méthylation du nouveau brin par réplication. L'enzyme, elle est toujours là, elle va faire le tour, elle va trouver tout un tas de cytosines avec des guanines derrière qui ne sont pas méthylées, elle va dire « oh là là, c'est ce travail », et elle va rajouter un groupement méthyle. D'accord ? Donc ça, ça se transmet de cellule à cellule, la méthylation de l'ADN. C'est un processus normal, néanmoins. Néanmoins, ce processus, qui peut être influencé par l'environnement, on va voir comment tout à l'heure, s'il y a trop de groupements méthyl dans la zone qui initie le gène, eh ben, le gène ne s'exprime pas. On dit qu'il est réprimé. D'accord ? Alors, c'est potentiellement plus ou moins grave, ça dépend du gène, ça dépend de sa nécessité dans la cellule dans laquelle il se trouve. Réprimer le gène de l'expression de la couleur des yeux dans le gros orteil, ça n'a aucune sorte d'importance, d'accord ? Réprimer un gène suppresseur de tumeur, où que ce soit, c'est problématique. D'accord ? Donc du coup, cette méthylation de l'ADN va indiquer au gène qui s'exprime pas, mais comme elle est influençable par l'environnement, on peut potentiellement inactiver ou activer en déméthylant des gènes qui ne devraient soit pas s'activer, soit au contraire s'activer. D'accord ? Donc ça va potentiellement déclencher des chaînes de conséquences. Ça dépend comment c'est fait dans la... Ça dépend où ça a lieu, ça dépend comment c'est fait, ça dépend la quantité de méthylation. Ça dépend de tout un tas de trucs. D'accord ? Et là, on rentre dans le cadre de l'épigénétique, c'est-à-dire qu'il va falloir analyser le degré de méthylation de l'ADN selon là où il y a le problème ou pas et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la zone donnée. Alors, il y a un deuxième système de mécanisme de l'épigénétique. Alors, si à n'importe quel moment vous avez des questions parce que je vous ai perdu, hein. Ah oui. Alors, c'est systématique, quand on appelle ça une méthylation, ça porte un nom, que je vous retrouve exactement le terme. C'est systématique, c'est une méthylation. Mes notes, heureusement que je les ai gardées. Et non, c'est pas là. Okay. Voilà, voilà. Deux formes de méthylation, de maintenance de nouveau. Donc, ça, c'est une méthylation de maintenance, en fait. C'est-à-dire, il y a une guanine derrière, je te méthyle. Voilà. Par contre, de nouveau, ça c'est induit par l'environnement, c'est-à-dire que la méthylation a lieu à un endroit où elle ne devrait pas avoir lieu. Mais elle est soit induite par l'environnement, soit parce qu'on a mangé, soit... Enfin, il y a plein de façons de méthyler son ADN de façon nouvelle à un endroit qui n'était pas censé être méthylé du tout. D'accord ? C'est bon ? Oui ? Pas que. Elle peut ne pas. Comme on a vu tout à l'heure, les modifications qui sont faites au niveau de l'ADN, elles peuvent être réversibles ou pas. D'accord ? Donc, il y a une enzyme hein, qui est une ADN, quelque chose là, qui va méthyler l'ADN, en fait, qui va méthyler la cytosine. Il y a des enzymes pour déméthyler la cytosine. Enfin, il faut qu'on leur dise. Si on ne leur dit pas de le faire, ils ne vont pas le faire. Hein. Donc, ça va demander également de recevoir un ordre. D'accord. Donc ce n'est pas forcément irréversible. Et puis ça va beaucoup dépendre aussi du degré de méthylation de l'ADN. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de méthylation ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de méthylation ? C'est plus la quantité de méthylation, c'est il y a un too much en fait. Et puis au bout d'un certain temps, il y a un feu rouge qui s'allume et c'est fini. Ou au contraire, un feu vert. D'accord ? Oui ? Ça peut être temporaire, tout à fait. Mais après, ça dépend de ce qu'on appelle le temporaire. Oui, Tout à fait. On va le voir justement dans le deuxième système de... Où qu'il est ? Le voilà. Voilà. Donc il y a un deuxième système qui va aussi dépendre de la méthylation, qui est le code des histones. Voilà. C'est un deuxième système de régulation épigénétique. Donc on a vu que l'ADN, il était conservé, enroulé autour des protéines histones qui permettent de le protéger et qui vont aider à le condenser. Donc ces histones, ils sont regroupés les uns derrière les autres pour former la chromatine qui va former le chromosome. Et en fait, ils peuvent être plus ou moins condensés. Et on va voir tout de suite la conséquence que ça a. Ici, vos histones sont très condensées. D'accord ? Comme vous pouvez le voir, ils sont très condensés parce que sur les petites, ce qu'on appelle les queues des histones, ici, là, sur les petites queues des histones, il y a un groupement méthyl. Encore. Plus il y a de groupements méthyl sur la queue des histones, plus l'histone, et le suivant, et le suivant, et le suivant, voilà, les octamères, on appelle ça, ils vont se condenser, se resserrer les uns les autres, être tout groupés, tout serrés. Mais quand ils sont tous serrés comme ça, accéder au brin d'ADN qui est là, c'est pas de la tarte. Donc là, le brin d'ADN, il est toujours là. L'information génétique, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. C'est juste que c'est impossible d'aller fabriquer la protéine à laquelle elle correspond. Impossible. On ne peut pas y accéder. Donc les enzymes, elles ne peuvent pas aller lire ça. Trop coincé. À l'inverse, lorsque les queues des histones présentent un groupement acétyl, ils vont se décoincer. Ça s'espace. Les histones sont espacées les uns des autres. On a accès au brin d'ADN et donc on peut fabriquer la protéine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le code des histones. Donc si on résume, hop, allons bon. Bon, tant pis. Vous avez le chromosome. Sur le chromosome, il y a de l'ADN codant, de l'ADN non codant, 2% de codant. Et vous avez donc les histones avec les groupements méthyl. Oui, non, vraiment pas. Donc, ah si. Donc ici, voilà, normalement, vous pouvez avoir accès aux gènes lorsque les histones sont détendues. Si on méthyle l'ADN, j'ai accès aux gènes, mais j'ai un groupement méthyl, je ne le lis pas. Ou alors, j'ai toujours accès aux gènes, mais hop, je méthyle les octamères, ils se resserrent, j'ai plus accès aux gènes, je ne peux pas l'exprimer. Donc ça fait déjà deux mécanismes de régulation. La méthylation ou la méthylation des histones qui provoquent cette condensation de l'ADN et sont l'impossibilité en fait de sa traduction en protéines. Ça, c'est les deux premiers mécanismes. Il y en a un troisième. Alors, le troisième mécanisme de régulation de l'épigénétique, c'est l'ADN non codant. D'accord ? Alors, l'ADN non codant, on a vu, c'est beaucoup à l'intérieur... à l'intérieur de la totalité de l'ADN dont vous disposez, puisque 2% d'ADN pour faire des gènes, je ne vais pas y arriver, 2% de l'ADN pour faire des gènes, et puis 98% de l'ADN pour faire autre chose. On l'appelait jusqu'à très récemment l'ADN poubelle. En fait, non, il sert à quelque chose. On va voir très rapidement à quoi va servir cet ADN. À plein de choses. Je me suis dit qu'on ne pourrait pas faire un bon cours sans un chaton. Alors, ceci est un chat. Et pour les gens qui sont un peu férus de génétique, ceci est un chat femelle. Alors, pourquoi c'est un chat femelle ? Eh bien, parce que figurez-vous que chez le chat, chez nous aussi en fait, mais chez nous, on est rarement de cette couleur-là. Donc, chez le chat... C'est manifeste. Il n'y a, dans les cellules du chat comme dans les nôtres, qu'un seul chromosome X qui s'exprime. Pour les garçons, c'est pas trop grave, ils en ont qu'un. Donc de toute façon, voilà, il n'y a pas trop le choix. Mais chez les femelles, il n'y a qu'un seul chromosome X qui s'exprime à l'intérieur des cellules. Chez nous aussi. Un seul des deux chromosomes X. Sélectionné complètement au hasard à l'intérieur de la cellule. À chaque fois qu'il y a une division cellulaire... La cellule choisit l'un des deux chromosomes X au hasard pour s'exprimer. D'accord ? Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le chat. La couleur chez les chats est portée par le chromosome X. Vous n'aurez jamais un chat mâle de trois couleurs. Ça n'est pas possible. Enfin, potentiellement si, mais c'est très rare et ça porte bonheur si vous en avez un, gardez-le précieusement. Vendez-le à un japonais. Voilà, ça coûte très cher. Donc, normalement, c'est des femelles. Et comme il n'y a qu'un seul chromosome X qui s'exprime dans les cellules et que c'est choisi aléatoirement, si la femelle chat, elle a sur un de ses deux chromosomes X la couleur roux et sur l'autre chromosome X la couleur noire, eh ben, elle va avoir des plaques noires, des plaques rousses et des endroits où le chat est blanc, parce que ça, c'est par défaut. Donc du coup, on se retrouve avec un chat qu'on appelle écaille de tortue, ayant des couleurs spécifiques. Et alors, c'est ça qui a beaucoup attristé les gens quand on a parlé de clonage. Ils ont dit, je vais pouvoir cloner Minou. Non, parce qu'en fait, quand on clone un chat qui a cette couleur-là, on ne va pas avoir les mêmes taches sur le descendant, puisque c'est choisi aléatoirement dans chaque cellule. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi un chat, vous allez me dire, mais quel rapport avec l'épigénétique ? Eh bien, le choix du chromosome X qui s'exprime, par rapport au choix du chromosome X qui ne s'exprime pas, c'est de l'épigénétique. Il y a un ARN qui est dédié à ça, qui s'appelle XIST. XIST, à peu près, hein. X-I-S-T, donc XIST. XIST, son seul travail, c'est de choisir quel chromosome X s'exprime et lequel ne s'exprime pas. Il ne fabrique pas de protéines. C'est ce qu'on appelle un ARN non messager. D'accord ? Donc ça, c'est le premier type. Il va y en avoir plusieurs. Alors, l'ARN non messager. Donc, du coup, c'est une très, très grande famille. Il y en a énormément des ARN non messagers. Là, je vais reprendre mes notes parce que, hein, voilà. Il y en a énormément d'ARN non messagers. On n'a pas tout compris de comment ils fonctionnent, mais on les classe en deux grandes catégories. L'ARN non messager à chaîne longue et l'ARN non messager à chaîne courte. D'accord ? XIST, si je ne dis pas de bêtises, est un ARN non messager à chaîne longue. D'accord ? Au niveau des ARN non messagers à chaîne courte, vous allez voir que leur action est beaucoup plus impactante, entre guillemets. Alors voilà. Donc là, on a du micro-ARN. Alors le micro-ARN, comment ça se passe ? Donc, vous avez de l'ADN non codant qui va servir à fabriquer un micro-ARN. Les micro-ARN, il faut que je récupère mes chiffres. Ils font une vingtaine de nucléotides seulement, d'accord ? Et On en a identifié un peu plus de 2500, d'accord ? Contre 5000 ARN à chaîne longue. Donc on en a identifié 2500, dont le rôle va être relativement spécifique. Ils sont reconnus par un ensemble de protéines qu'on a ici. Hein, votre ARN à chaîne courte, votre micro-ARN, il est juste là. D'accord ? Et vous avez une protéine qui va le prendre en charge, qui va le reconnaître, se fixer à lui. Voilà. Et alors ce complexe protéine micro-ARN est fait, il est calibré pour reconnaître l'ARN messager. Il est composé d'une vingtaine de nucléotides. Les nucléotides, comme pour l'ARN, comme pour l'ADN, ils sont spécifiques entre eux. À chaque fois que l'ARN va réussir à se fixer à un ARN messager, il va le détruire. Et alors, encore plus perturbant, ça n'a pas besoin d'être complètement spécifique. C'est-à-dire même une reconnaissance partielle de l'ARN messager entraîne sa destruction. Donc là, on le voit bien le problème. Le gène s'exprime, l'ARN messager est produit, l'ARN messager arrive dans la cellule, il est reconnu par un micro-ARN et il est détruit avec impossibilité de fabriquer la protéine qui va avec. Donc c'est un mécanisme de destruction massif, puisque pouvant reconnaître de l'ARN messager de plusieurs protéines différentes. Voilà. Donc chaque cellule est capable de produire une très très grande quantité d'ARN non messager à chaîne longue, à chaîne courte. Chaque cellule fait bien ce qu'elle veut, hein, et elle peut également transmettre ses caractéristiques à la descendance. C'est-à-dire que si tout à coup un ARN non messager est présent dans la cellule, si cette cellule se divise, elle peut tout à fait transmettre à ses cellules filles cet ARN non messager qui va avoir dans la cellule suivante exactement le même effet que dans la précédente. Donc là, on a une hérédité ponctuelle, cellulaire, entre guillemets, hein, d'une cellule mère à une cellule fille, de l'ARN non messager et de ses conséquences. Donc là, nous avons vu l'intégralité des différents mécanismes d'épigénétique. On va aller dans le domaine pour lequel je pense que vous êtes majoritairement venu, à savoir à quoi ça sert, et puis comment ça marche, et puis quelles sont les conséquences. Alors, Donc on va attaquer l'aspect transgénérationnel et environnemental, et on va commencer avec l'espèce humaine. C'est là-dessus qu'on a fait les dernières avancées. C'est pareil, je vais récupérer mes notes parce qu'il y a des chiffres. Voilà. Donc, au niveau des études qui ont été faites sur l'épigénétique, on s'est notamment beaucoup intéressé aux descendants de la Shoah. Quand on a commencé à se dire « Ok, les traumatismes sont héréditaires, allons voir un peuple qui a été globalement beaucoup traumatisé au cours du XXe siècle ». Et on a remarqué des schémas de méthylation qui prouvaient, effectivement, un petit peu comme dans l'expérience que j'avais donnée sur les mammifères en début de présentation, que le stress avait laissé un impact sur la méthylation de l'ADN chez les descendants des personnes qui avaient vécu la Shoah. Nous avons un autre exemple au cours du XXe siècle qui est également lié à la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est plus limité géographiquement, puisque nous allons voir ensemble maintenant le cas de la famine hollandaise. Alors, pour la petite histoire, la famine hollandaise, elle a eu lieu de novembre 44 à mai 45. Les habitants des Pays-Bas ont été soumis à un embargo absolument insupportable de la part de l'envahisseur. Et ils ont été contraints de vivre donc de novembre à mai avec à peu près 30% des calories nécessaires par jour. C'est pas beaucoup. Donc ils ont eu très faim. D'accord, ça a été très violent, très ponctuel, mais ils ont eu très faim. L'étude que je vais vous présenter, en fait, elle a été possible parce que les archives des Pays-Bas sont très documentées sur la zone et sur la période. Donc du coup, il a été possible de voir quelles personnes avaient été victimes de cette famine et où étaient les descendants, etc., etc. Donc voyons ça. Les gens qui ont été victimes de la famine, qui vont nous intéresser maintenant, c'est surtout les femmes enceintes, à savoir que il y a les femmes enceintes qui étaient déjà enceintes au moment où la famine a commencé, et il y a celles qui sont tombées enceintes en cours de route. On va les séparer en deux groupes. Donc le premier a été victime de la famine dans le dernier trimestre de la grossesse, le second a été victime de la famine dans le premier trimestre de la grossesse. Pour les femmes étant victimes de la famine dans le dernier trimestre de leur grossesse. Toutes les femmes qui ont eu des enfants le savent, les médecins également. Hein, c'est le moment où, normalement, l'enfant, le futur nouveau-né prend le plus de poids, se développe le plus. Donc, pour ces femmes-là, ça ne surprendra personne si je vous dis que leurs enfants sont nés plus petits et pesaient moins lourd à la naissance. D'accord ? Mais cette particularité a été conservée par la suite. C'est-à-dire qu'en devenant adulte, ils restaient également de petite taille et de poids moindre, malgré le fait que leur alimentation était redevenue normale. Ce n'est pas le plus surprenant des deux groupes. Le plus surprenant des deux groupes, c'est le second, puisque donc les femmes tombent enceintes au début de la famine, mais la fin de leur grossesse, elles mangent bien comme elles veulent. D'accord ? Donc du coup, leurs enfants viennent au monde avec un poids et une taille tout à fait normale. Or, ces enfants, quand on regarde au niveau de leur ADN, ils avaient quand même une quantité de méthylation complètement anormale, et ils avaient un risque accru de développer l'obésité et le diabète à l'âge adulte. Leurs enfants aussi. Donc c'était transmis sur deux générations. Alors comment ça se fait que c'était... Ça marche toujours ou pas ? Ouais ? Bon, d'accord. Donc comment est-ce que c'était transmis sur deux générations ? Ben, par la méthylation de l'ADN. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Mais c'est relativement simple en fait. Pendant la grossesse, le fœtus a perçu la dénutrition de la mère. Alors, il ne l'a pas perçu comme ça, il ne s'est pas dit « Tiens, je trouve qu'on ne mange pas beaucoup ». Non. Non, mais il a reçu des messagers, il a reçu des messagers chimiques notamment qui ont induit une méthylation de certains gènes dans l'ADN, qui ont réagi à la dénutrition de la mère et qui ont dit « Ok, dehors, ce n'est pas très cool, si on peut stocker des réserves, il faut le faire ». Voilà. Et donc, on se retrouve avec des adultes qui ont une potentialité d'obésité plus forte, tout simplement parce qu'ils fabriquent beaucoup plus d'adipocytes. Les adipocytes étant les gentilles cellules qui stockent la graisse dans le corps humain. Ils en fabriquent plus parce que des fois qu'on reviendrait à mourir de faim, ce serait pas mal de garder des réserves. Et cette caractéristique a été transmise à leurs descendants également. Oui. il y a un double jeu là-dessus. Pour les populations du Pacifique, en fait, oui, bien sûr, cette capacité rentre en ligne de compte, mais c'est surtout que ces individus ont un métabolisme extraordinairement efficace. Voilà, c'est-à-dire que chaque calorie utilisée est utilisée à bon escient. Ils ont un métabolisme qui utilise le minimum de calories, le minimum d'efforts pour le maximum d'efficacité. Or, le problème, quand on utilise le moins de calories possible pour effectuer un truc, bah, c'est qu'il en reste plein, notamment quand on se met à manger beaucoup plus que d'habitude. Et donc, comme il en reste plein, le corps ayant horreur du gâchis, il stocke. Voilà. Donc, ces populations ayant un très bon métabolisme ont une tendance à l'obésité également. Mais ça, c'est présent dans les gènes sous forme d'épigénétique. Oui, c'est de la méthylation, c'est de l'expression du génome. Donc oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, c'est jusque-là, pour le coup, c'est ce qu'on a pu étudier. D'accord. Mais oui, c'est possible que ce soit plus, il n'y a pas de raison. Surtout qu'il y a une partie de notre génome, donc on a dit, qui est non codant, hein, les 98%. Les généticiens ont tendance à dire que dans ces 98%, il y a de l'ADN dit fossile, qui garde la trace de l'évolution de l'espèce humaine. S'il y a des informations là-dedans, elles sont toujours là. Donc oui, on garde ce genre de traces, plus ou moins, puisqu'on a vu également que c'était réversible ou pas. Donc une nouvelle pression de l'environnement peut très bien inverser le schéma de méthylation de l'ADN. D'accord ? Oui ? Une influence de quoi ? Non, les trois se manifestent dans toutes les cellules. Les trois se manifestent dans toutes les cellules, juste à différentes échelles. Il faut bien avoir conscience que de la même façon que la traduction du brin d'ADN, ça a lieu tout le temps, en vous, partout. Voilà, c'est vraiment... C'est un jeu de... C'est une mécanique très fine, hein, mais c'est un jeu de oui, non, non, oui, non. Et en fait, c'est une échelle de... Comment on appelle ça ? Une échelle des possibles, là où on suit un chemin et puis on regarde où est-ce qu'on arrive à la fin. Oui, je fabrique, non, je ne fabrique pas. Mais c'est tout le temps. L'équilibre, il est permanent en fait, à l'intérieur des cellules. Chaque cellule transcrit son ADN et en fonction du schéma de méthylation, fabrique la protéine ou pas. Et de la même façon, deux cellules appartenant à un même tissu et côte à côte peuvent très bien l'une fabriquer la protéine, l'autre pas. On a principalement retrouvé des schémas de méthylation pour ce groupe-là. Donc de méthylation au niveau de l'ADN, de méthylation au niveau des codes des histones, les deux. D'accord ? Donc une inhibition de l'expression de certains gènes et au contraire certains gènes qui ont été surexprimés. Alors il y a une autre étude qui a été faite sur le même type. D'épigénétique, en fait, sur le même type de réaction épigénétique, sur des rongeurs cette fois-ci. Alors, chez le rat, encore lui, voilà, on le connaît bien, en laboratoire surtout, chez le rat, le comportement maternel va être déterminant au niveau de la portée. Donc, il y a dans le comportement maternel deux comportements majeurs qui vont avoir un impact sur la portée. Le premier, c'est je fabrique un nid relativement confortable pour ma progéniture et dans lequel elle sera à la bonne température. Le deuxième comportement étant je lèche les yeux et la zone anogénitale de ma progéniture pour assurer un certain degré de propreté et de stimulation du système sanguin. Il y a des femelles rats qui s'y livrent avec beaucoup d'attention. Il y a d'autres femelles rats qui s'y livrent avec beaucoup moins de sérieux. Et ça a des conséquences sur la progéniture, à savoir que les femelles ayant elles-mêmes subi un traitement plus laxiste, on va dire, sont elles-mêmes laxistes avec leurs descendants, etc. etc. D'accord ? Alors, c'est là qu'on va induire une des choses les plus importantes avec l'épigénétique et qu'on va bousculer certains acquis qu'on avait depuis longtemps. Ça tombe bien, justement. C'est la séparation entre l'inné et l'acquis. C'est-à-dire qu'on s'était dit, OK... Il y a l'inné qui va être dans nos gènes, c'est notre génétique, je suis programmée pour faire ça, pour devenir ça, etc. Bienvenue à Gattaca. De l'autre côté, il y a l'acquis, c'est ce que papa et maman m'ont transmis, c'est mes valeurs, c'est mes expériences, c'est la fois où je suis tombée en vélo, c'est ce que j'ai acquis en cours de route. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. D'accord ? Alors, chez les rats, revenons. Les enfants des bonnes mères devenaient elles-mêmes des bonnes mères, les enfants des mauvaises mères devenaient elles-mêmes des mauvaises mères, on pourrait se dire, c'est de l'acquis. D'accord, à savoir, bon, ayant moi-même été témoin d'un certain comportement, je le reproduis et tant pis pour ma progéniture. La preuve, quand je mets les enfants des mauvaises mères avec de bonnes mères et les enfants des bonnes mères avec de mauvaises mères, chacune reproduit le comportement de sa maman adoptive. Néanmoins, quand on va s'intéresser au schéma de méthylation, eh bien, ce ne sont pas les mêmes. Donc, l'acquis être inné. Je peux faire des modifications de mon génome qui vont potentiellement être transmis à ma descendance suite à un traitement que j'ai reçu. Voilà. La transmission du traumatisme, toujours, hein, on revient dessus. Potentiellement, en fonction de mon vécu, je vais inscrire dans mes gènes mes expériences. La frontière entre l'inné et l'acquis devient extrêmement plastique, elle devient extrêmement floue. D'accord ? Et c'est là-dessus que portent les études les plus, je dirais, intéressantes de l'épigénétique. Hein. C'est sur dans quelle mesure est-ce qu'on inscrit nos expériences à l'intérieur de nos gènes. Oui ? Non, il n'y a jamais modification du génome. Sinon, on parle de génétique, en fait. Donc, ce n'est que des modifications épigénétiques sur la régulation de l'expression des gènes. Voilà. Tous les traumatismes, toutes les expériences sont inscrites dans l'épigénétique. Oui. Non. L'ADN fossile, en fait, c'est une trace au niveau de notre ADN de choses qui ont dû servir dans des temps immémoriaux et dont on ne sait plus très bien à quoi ça sert maintenant parce qu'on a quand même vachement changé en cours de route. C'est dans l'ADN non codant. C'est dans les parties qui ne servent à rien. Voilà. Alors, si ça se trouve, ça sert à quelque chose. Juste, on ne sait pas. 98%, ça laisse une grande marge de manœuvre de découverte. La preuve. D'accord ? Oui ? Il y a plusieurs questions en une. Alors déjà, nos brins de chromosomes, entre guillemets, ne sont pas de la même longueur en fonction du moment de notre vie. Nous avons une activité dite des télomères, de destruction des télomères, qui est au bout du chromosome. En gros, c'est le compte à rebours de chaque chromosome qui dit « je me suis divisé une fois, je me suis divisé deux fois, je me suis divisé trois fois. Ah, j'ai plus le droit de me diviser, je meurs !» On est vieux dans ces cas-là. Ça veut dire que la cellule a cessé de se diviser, la cellule est vieille, elle se détruit. Voilà, elle n'a plus le droit. C'est fini. Il n'y a qu'un seul type de cellule à l'intérieur du corps qui ignore complètement l'activité de télomère et qui dit « moi, je suis immortel ». On n'a pas envie de les savoir, ce sont les cellules cancéreuses. Voilà. L'activité télomère, elle est super. Donc, du coup, voilà. Donc, nos brins de chromosomes, ils changent au cours de notre vie. Après, la quantité de chromosomes à l'intérieur d'une espèce est stable. Voilà, on est dans l'espèce humaine, on a techniquement, normalement, 46 chromosomes présents pour produire un individu. C'est différent chez les autres espèces. Il y a des espèces à 66 chromosomes, il y a des espèces, je crois que c'est le cheval, il y a des espèces à 48 chromosomes, c'est le chimpanzé, etc. etc. Ça n'a rien à voir avec la taille des individus. La souris en a plus que le chat. Voilà. Donc, c'est vraiment très variable. Cette quantité d'ADN, elle est globalement stable. On a des grandes tendances qui se dessinent, mais pas à notre échelle à nous. Par exemple, les scientifiques récemment, ils se sont dit « Ah ben, le chromosome Y, un jour, il va disparaître. » Ça fait peur. Enfin, pas pour moi, j'en ai pas. Mais oui, effectivement, le chromosome Y, en fait, on constate que, évolutivement parlant, il est voué à disparaître parce que il n'a pas de brassage avec d'autres chromosomes, vu qu'il est tout seul. Voilà, et que normalement, les chromosomes, ils se brassent entre lui, il est tout seul. Donc, petit à petit, vous avez vu, hein, il est tout petit. Et puis, il va continuer à réduire. Et quand il aura fini, comme la masculinité, c'est quand même important pour la reproduction sexuée, on n'a pas encore trouvé le moyen de s'en passer. Pas encore. Donc, Du coup, il y aura certainement un autre chromosome qui va récupérer les gènes responsables de l'expression des caractères sexuels. J'ai encore du temps. Qui va récupérer les gènes responsables de l'expression sexuelle masculine. Et ce chromosome-là va prendre la place de Y et réduire lamentablement jusqu'à sa disparition. Mais on, là, on parle en centaines de milliers d'années. On n'a pas besoin de se projeter aussi loin. Et ça se trouve, en plus, on a tort parce qu'en science, on n'est jamais sûr de rien. Voilà pour la longueur. J'ai répondu ? À peu près. Oui ? Oui. Là, c'est une question compliquée. Alors, il y a des mécanismes d'apparition de chromosomes qui sont fort, fort connus. Hein. C'est toutes les anomalies de division cellulaire qui vont présenter des caryotypes anormaux, notamment. Après, chaque modification peut être sélectionnée positivement ou négativement par l'environnement. Et à partir de là, on va... Voilà. Il est fort probable, non d'ailleurs c'est avéré, quand deux espèces sont relativement proches, leur nombre de chromosomes est très proche, et plus elles évoluent l'une différemment de l'autre, plus leur nombre de chromosomes peut être appelé à changer en fonction de la sélection qui est faite et des réarrangements à l'intérieur de la cellule. Voilà. En gros. Ok ? On est prêt ? Ouais. Alors donc on a vu les traitements parentaux, hein, l'impact des traitements parentaux, vous allez me dire mais le père du coup, le père il n'a aucun impact ? Si. Le père il est là. En 2014, une équipe de scientifiques à Zurich, université de Zurich, a mis en évidence que le stress paternel modifiant l'expression des micro-ARN dans le sperme est à même de perturber le développement fœtal et les modifications métaboliques et comportementales chez l'enfant. Alors ok, donc le père quand il est stressé, ça a des conséquences sur l'enfant qu'il génère. On va rigoler ensemble. C'est également vrai quand ce stress a lieu quand le père est enfant. Donc on est loin hein, du moment où il va se reproduire. Ça modifie son sperme définitivement. Le sperme est marqué par le stress ressenti chez le père, le futur père. Ça marche aussi quand il est à l'état de fœtus. Voilà, donc dans le ventre de maman, ça marche pareil. Donc le père a également un rôle à jouer dans l'épigénétique par le biais des micro-ARN. Alors sans doute un autre rôle, hein, mais pour l'instant, celui-là, c'est le seul qu'on ait mis en évidence. Oui ? Oui ? C'est mon petit 2. Allons-y. Ah ! Les aliments ont un rôle sur notre épigénétique. Tout à l'heure, nous avons vu que les femmes qui étaient en dénutrition pendant la famine aux Pays-Bas, ça avait impacté l'épigénétique de leur descendance. Et en fait, il est possible également d'impacter l'épigénétique de la descendance en sens inverse, à savoir une alimentation riche en nourriture grasse va impacter l'épigénétique de telle sorte que les descendants et les descendants des descendants vont créer plus d'adipocytes et avoir un risque accru d'obésité et de diabète à l'âge adulte. À nouveau. Mais oui, mais parce que si les adultes précédents mangeaient très gras, ça veut dire que la nourriture disponible, c'était du gras. Ça veut dire que pour survivre, il faut que je sois capable de stocker le gras. Et donc, je produis des adipocytes. N'oublions pas que l'organisme ne réfléchit que dans la survie de l'espèce et la survie notamment des caractéristiques génétiques de l'individu qui les porte. Donc, si les parents ont survécu en mangeant gras, eh ben, je vais essayer d'en faire autant. Voilà. Donc, on peut voir que l'alimentation a un rôle sur l'épigénétique et elle peut avoir un rôle indirect. Alors, quand une femme veut procréer ou qu'elle a commencé, on lui prescrit généralement de l'acide folique, photo non contractuel, sauf en bas à droite, c'est le bon. Voilà. L'acide folique, c'est une molécule qui est distribuée aux femmes parce que globalement, on leur dit qu'il est essentiel dans l'embryogenèse. Hein, c'est très, très utile pour le bon développement de l'embryon sur les 3 premiers mois et il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et puis en plus, voilà, il est souvent couplé à la vitamine B9. Pardon. Prenons donc ceci pour aller mieux. Bon, l'acide folique, jusque-là, pas de souci. Sauf qu'en fait, l'acide folique il va avoir un autre rôle puisqu'il va entrer en ligne d'action sur les schémas de méthylation. L'acide folique, il va avoir un rôle au niveau des enzymes qui méthylent, déméthylent. Donc, s'il y a de l'acide folique, les méthylations vont être différentes que s'il n'y en a pas. Là encore, l'alimentation joue un rôle très impactant sur l'épigénétique. Alors, chez nous, ça va, c'est pas si grave, entre guillemets. Hein, l'acide folique, ok, méthylation, déméthylation, expression de certains gènes, expression d'autres. On a vu que c'était réversible. L'épigénétique, ça peut aller très loin, et notamment l'épigénétique provoquée par l'alimentation. Je vais sortir de l'espèce humaine pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec l'épigénétique. Nous allons étudier ensemble le cas des abeilles mielifères. Ce sont les abeilles qui font du miel. Les abeilles qui font du miel sont groupées en sociétés d'insectes où chacun a un rôle très précis. Il y a une reine dont le rôle va être de se reproduire, de pondre des œufs, un peu plus d'œufs et encore un peu plus d'œufs. Et il y a les ouvrières dont le rôle va être de prendre soin des larves, les nourrir, aller chercher le pollen, fabriquer les alvéoles, enfin, la ruche, d'accord ? Voilà, s'occuper de la reine, la nourrir aussi, tout ça. Ce sont les mêmes en termes de génétique. Toute abeille, au moment de la fécondation de l'œuf, a en elle l'intégralité des gènes pour devenir une reine. Toutes. Elles ont le même bagage génétique. Les mêmes gènes, le même potentiel. Le destin d'une abeille est scellé par son alimentation. Si, à l'état larvaire, elle est nourrie de pollen fermenté ou de miel, son développement larvaire est réprimé, elle devient une ouvrière. Si elle est nourrie exclusivement de gelée royale, j'insiste, exclusivement, elle devient une reine. Alors les mécanismes qui font que les ouvrières décident de nourrir telle ou telle larve avec de la gelée royale ou avec du pollen, c'est un peu... Bon, on n'est pas très sûr. Mais là, on voit bien que selon l'alimentation, les gènes qui s'expriment sont radicalement différents. On a des modifications structurelles. Elles ne se ressemblent pas trop. D'accord ? Les deux abeilles, la reine et les ouvrières, ça ne se ressemble pas. Donc ça veut bien dire qu'au niveau structurel, il y a eu des modifications. Elles ont une modification physiologique. Ce qui se passe à l'intérieur du corps est très différent. Il y en a une des deux qui va se reproduire, l'autre non. D'accord ? Leur métabolisme est différent, leur rôle est différent. Et tout ça s'est induit non pas par les gènes qui sont strictement identiques d'un individu à l'autre, mais par l'alimentation qui leur a été donnée au stade larvaire. Donc nous, on n'a pas de système aussi frappant chez l'espèce humaine. Mais vous voyez à quel point l'épigénétique peut avoir un impact sur les individus ? Là, ça devient fort. Oui. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'études sur le sujet, mais en fait, c'est une histoire de contenu à l'intérieur du pollen et de la gelée royale, et surtout de flavonoïdes. Alors, je ne sais plus qui c'est qui n'en a pas. Alors, dans l'alimentation des ouvrières, il y a beaucoup de flavonoïdes et de micro-ARN. Et c'est ce micro-ARN et ces flavonoïdes qui vont induire toute une échelle de conséquences au niveau de l'expression des gènes. Donc, si jamais on ne donnait pas que de la gelée royale, il y aurait des micro-ARN et des flavonoïdes chez la reine et il y aurait potentiellement des anomalies de développement par rapport à ce qu'on essaye d'obtenir. Voilà. Oui ? C'est mon petit 3. Voilà, et ben c'est de l'épigénétique, hein. Donc là, on a bien le cas d'un développement de reine qui est un développement par défaut. D'accord ? Et c'est l'épigénétique qui va décider d'orienter le développement de l'organisme vers un développement ouvrière, stérile, voilà, travailleuse de la ruche. Donc là, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais comme on va voir, ce n'est pas le seul endroit où l'épigénétique va avoir une conséquence sur le développement des individus, puisque... Détermination phénotypique et épigénétique, le crocodile et les tortues. Alors, effectivement, l'épigénétique va,
va également déterminer le sexe des individus chez certains oiseaux, chez des amphibiens et chez les reptiles de façon variable, hein, ça dépend des espèces. Mais globalement, le sexe des individus n'est pas déterminé génétiquement, mais déterminé par la température d'incubation des œufs. Alors, pour les tortues, le point pivot, je ne l'ai pas noté là, mais je crois que c'est 30 degrés. Au-delà de 30 degrés, je ne fabrique plus que des femelles. Voilà. En dessous, par défaut, je fabrique des mâles. La courbe en pointillé sur le côté, sur le premier diagramme. C'est chez un lézard qu'on a mis en face pour montrer que l'épigénétique peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Chez ce lézard-là, c'est l'inverse. C'est je fabrique par défaut des mâles et au-delà de 30 degrés, je n'en fabrique plus, donc ce sont des femelles. Et c'est la même chose finalement, les mâles en dessous de 30 degrés, les femelles au-dessus, mais en fait, ça dépend de l'état par défaut et de ce qui est induit par le changement de température. On en a qui sont retors. Voilà. Chez les crocodiles, chez certains crocodiles, chez certaines tortues, il va y avoir deux points de pivot. Voilà, donc on a des femelles et puis hop, je dépasse une température, je fais plus que des mâles et hop là, je dépasse à nouveau une température, je fais plus que des femelles. Bon, oui. Parce qu'en fait, c'est une réponse directe aux changements environnementaux. C'est l'espèce, ça va, oui, va y avoir un impact direct sur l'espèce en fait. Donc c'est là où les autres espèces qui ont un déterminisme génétique entre guillemets, je ne sais pas si on peut encore parler de déterminisme après ce qu'on a vu, hein, que l'épigénétique elle agit partout. Mais mettons pour une espèce qui a notamment au niveau sexuel un déterminisme génétique, les changements de l'environnement, ça va lui passer au-dessus, voilà. Enfin si, ça va marcher sur l'épigénétique, mais pas au niveau des populations. Alors que là, ça va être direct. On a certains amphibiens qui vont répondre à l'environnement, non pas au niveau embryonnaire comme c'est le cas ici, mais tout le monde a vu Jurassic Park, à l'absence ou la présence de l'autre sexe dans les environs. Oh, il n'y a que des femelles. Ben, moi, je vais me changer à l'intérieur de moi, puis je vais faire le mâle. Hop. Non, oui, voilà. À partir du moment où elle est codée dans le génome, elle n'est pas réversible. Or, pour passer de mon phénotype femelle à un phénotype mâle ou de mon phénotype mâle à un phénotype femelle, il faut qu'à un moment, l'expression de mes gènes change. Oui. Oui, effectivement, ça va être problématique pour le cycle de reproduction de certains organismes. Mais ça, on sait bien que le réchauffement climatique va être problématique pour le cycle de reproduction de plein d'organismes. Oui. Oui. Non. Oui.
On parlait tout à l'heure de la possibilité finalement de la quantité de combinaisons dans la formation des gamètes.
Oui.
Influence l'environnement sur la formation des gamètes.
Ouh là là. Je ne suis pas qualifiée pour répondre à cette question.
Potentiellement,
bien sûr. Potentiellement. Oui. En sachant que on n'a pas fini avec les gamètes, hein, parce que non seulement on en fabrique donc énormément, alors chez les femmes, sur les 8 388 608 possibles, on en fabrique, alors je ne sais plus, mais quelque part dans les ovaires, je crois qu'on en a 800 au départ, un truc comme ça. Donc, il y en a qui disparaissent en cours de route, mais on n'a pas les 8 millions dans nos ovaires de toute façon. Donc déjà, voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est celui-là qui va devenir un ovocyte et que l'autre là, il va dégénérer ? Qu'est-ce qui fait que je choisis celui-ci plutôt que celui-là ? Qu'est-ce qui fait que c'est tel spermatozoïde qui réussit et pas celui-là ? Là-dessus, il y a plein d'études, et elles ne sont pas toutes d'accord, et on est encore en train de se dire, OK, il y a des communications intercellulaires, notamment au niveau des gamètes, qui sont spécifiques et qui certainement ont un rôle à jouer. Alors après, est-ce qu'il est épigénétique ? Nous verrons bien. Oui. Je pense qu'en fait, c'est les modifications qui vont être codées en dur. C'est-à-dire que les parties épigénétiques, entre guillemets, donc la méthylation, etc., bon, voilà, ça va rester, hein, c'est toujours possible de méthyler, déméthyler, mais certaines modifications peuvent être codées en dur, oui. On a vu, hein, c'est réversible ou pas. Donc, oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles sont sélectionnées positivement par l'environnement, donc elles présentent un avantage pour l'individu.
D'accord, donc on peut envisager que les informations qui sont dans l'ADN
bah, celui-là, il ne sert pas. Donc oui, potentiellement. Hein, C'est-à-dire, comme on ne le connaît pas très, 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 très bien, je ne m'avance pas beaucoup. Il y en a 98%, il doit y avoir un cas quelque part. Donc oui, sans doute. C'est possible. Quand on regarde en fait ce qui est rangé dans la bibliothèque, des fois on a des surprises hein, parce que donc y a un gène qui est très important pour les mammifères, c'est le gène qui permet la lactation. Ce gène, il est présent chez les oiseaux, qui n'en ont guère besoin. En fait, si. Ah, ils sont absolument incapables d'allaiter leurs petits. Hein. Ils n'ont pas le petit matériel qui va avec et tout ça. Et puis, bah, ils seraient très embêtés parce que ça ne marcherait pas bien. Mais par contre, ce gène qui permet de fabriquer le lait maternel chez l'être humain, chez les oiseaux, il conditionne le comportement parental. S'il n'est pas présent, les oiseaux, et notamment les manchots empereurs, hein, c'est là-dessus que je les ai étudiés, donc on va parler que du manchot empereur, comme ça je suis sûre de ne pas dire de bêtises. Chez le manchot empereur, hein, si c'est une hormone, si cette hormone n'est pas présente, il y a abandon de l'œuf. Voilà. Le manchot, il va manger et puis il laisse l'œuf. Puis bah, l'œuf gèle. Voilà. Donc on a pu mettre en évidence qu'en fait, cette hormone de la lactation, elle est très vieille, elle est là depuis longtemps, mais elle, juste, elle ne servait pas à ça. Et finalement, oui, enfin exactement, non, déclenche des comportements et des chaînes de réaction différentes. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est une petite chimie interne. Hein. Voilà. C'est juste que nous, quand on voit arriver le drapeau bleu, on fabrique du lait. Eux, quand ils voient arriver le drapeau bleu, ils prennent soin de leurs œufs. Voilà, c'est juste ça. D'accord ? Oui ? Alors, on est au stade, nous, on n'est plus trop en train de subir la pression de la sélection naturelle. Donc, en fait, on survit très bien en digérant le lait ou en ne le digérant pas du tout. Donc, il n'y a pas de sélection positive de la digestion du lait, puisqu'il n'y a plus de sélection du tout, ou peu s'en faut. À terme, si on est dans un festival de science-fiction, si l'apocalypse a lieu demain, soyons très clairs, les gens qui sont capables de manger le plus de choses différentes ont le plus de chances de survivre et de transmettre ces caractères à leurs descendants. Voilà, bêtement. Hein, on va... J'ai encore un cas à vous montrer. Voici le poisson clown et on va tout de suite oublier le monde de Nemo. Ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Cet animal est terrible et d'une violence rare. Il maltraite ses congénères. Le poisson clown vit dans les anémones, ça on a tous vu, hein, en groupe composé d'une femelle dominante qui tape sur les autres, qui se reproduit uniquement avec un mâle dominant qui tape sur ceux en dessous de lui, et de plein de mâles immatures en dessous. Les mâles immatures se font taper dessus, donc, si vous avez suivi, et ils prennent soin des œufs et des petits. Voilà. OK. Ça, c'est déterminé 100% par l'épigénétique. C'est-à-dire que s'il arrive malheur à la femelle dominante, qui est en haut de l'échelle, le mâle dominant devient une femelle. La place est libre. Je suis le chef. Voilà. Il devient une femelle, il tape sur ceux d'en dessous et le meilleur de tous les mâles immatures devient un mâle adulte. Il a ses organes internes qui changent, il devient un mâle fertile et il tape sur les autres pour être le seul. Voilà. Et il se reproduit avec la nouvelle femelle dominante. Et ainsi de suite. Là, on a bien un mécanisme de sélection qui est lié à l'épigénétique et cette épigénétique, elle est immédiate puisque dès que la femelle disparaît, ben, y a changement de hiérarchie. Et c'est uniquement l'agressivité de la femelle dominante sur le mâle adulte qui l'empêche de devenir une femelle. C'est uniquement l'agressivité du mâle adulte sur les jeunes qui les empêche de devenir matures. Donc là, c'est à toutes les échelles. Voilà. Et ça, c'est toujours de l'épigénétique. Donc comme vous pouvez le constater, chez l'espèce humaine, l'épigénétique, elle conserve une certaine forme de mémoire. Chez les animaux, elle détermine pratiquement toute leur vie. Enfin... Chez certains animaux, elle va déterminer toute leur vie. Pas chez tous, mais chez ceux-là, oui. D'accord ? Alors, donc les mécanismes d'épigénétique, ils sont fascinants. On a vu, pour l'instant, on en a trouvé trois. À l'intérieur de ces trois mécanismes principaux, il y a différentes échelles, méthylation, déméthylation, les deux ont leur importance. On a vu également qu'il y avait la méthylation, déméthylation des groupes d'histones, donc compactage de l'ADN, deuxième chose. Le troisième, je rappelle, c'est les ARN non messagers, les micro-ARN. Cela, soyons très clairs, c'est la partie où on nage le plus, parce qu'en en fait, il faut les trouver, après, il faut savoir à quoi ils servent, après, il faut essayer de les séquencer. Donc là, ça demande un travail phénoménal. Hein. 5000 ARN non messagers à chaîne longue, identifiés pour l'instant, 2500 micro-ARN. Donc ça représente déjà beaucoup de travail. D'accord ? Et ces trois mécanismes d'épigénétique vont tous agir dans toutes les cellules pour modifier l'expression de nos gènes. D'accord ? Et modifier l'expression de nos gènes, eh bien, ça va changer complètement ce qui va être exprimé au final. Je vais prendre un exemple avec du bon vieux français. Si l'intégralité de mes gènes dit « Sur Saturne, une jeune fille rousse porte une robe en coton bleu », l'épigénétique peut très bien me faire dire « Saturne, une jeune fille rousse ». Vous ne visualisez pas la même chose. Ou bien, une fille en coton bleu. Saturne en coton bleu. Saturne en robe. Et à chaque fois, l'image mentale que vous projetez est différente. Pourtant, c'est toujours la même phrase à l'origine, c'est juste que j'utilise pas les mêmes morceaux. D'accord ? L'épigénétique va déterminer quel morceau de la phrase j'utilise et ce qui est exprimé à la fin. C'est comme ça que ça marche. On est encore très très loin d'avoir compris comment ça fonctionne. On a cru qu'on était arrivé, enfin, on a cru. Oh, disons que c'était un rêve pieux. Hein. Au moment où on séquence le génome humain, on se rend bien compte qu'on n'en a que 2%. On voit bien qu'il y a un problème, mais on s'est dit, allez, ça va être simple. Non, non, ça ne va pas être simple, puisque effectivement, il va y avoir plein de mécanismes qui vont rentrer en ligne de compte. D'accord ? Oui. Tout l'ADN codant. Tout l'ADN qui produit des protéines, tout l'ADN qui va être traduit en protéines, c'est 2%. Le reste n'est pas traduit en protéines. Il peut être traduit en ARN messager, en ARN non messager, il peut être traduit en micro-ARN, mais il n'est pas traduit en protéines. Oui ? Oui. Toute l'embryogenèse est gérée par l'épigénétique. Toute l'embryogenèse va se consacrer à dire dans telle cellule, bah écoute, toi, tu es dans le système nerveux central, là, tu es quelque part au milieu du cerveau, bah, tu vas exprimer tel gène et tel gène pour devenir un neurone. Voilà. Ou une cellule gliale. Là, c'est lié au positionnement. Les gènes du développement, c'est fascinant. Hein. On pourrait faire une deuxième heure et demie là-dessus, mais j'ai plus de voix. Voilà. Mais les gènes du développement, c'est fascinant, hein, puisque dès le premier stade cellulaire, donc je sais pas, là, on n'a pas du tout développé ça, mais bon, fécondation, blablabla, je me divise, j'arrive dans l'utérus, je me divise. Déjà, à ce moment-là, il y a une différenciation qui a lieu. C'est la différenciation qui va donner le placenta. Le placenta, il est composé en partie des cellules de l'embryon, en partie des cellules de sa mère. Mais donc, du coup, là, déjà, il y a les cellules qui vont dire, OK, moi, je vais assurer l'approvisionnement de l'embryon. Là, je vais me mettre sur la paroi. On y va, on va faire des contacts. C'est parti. Et déjà là, il y a création de veines, il y a création d'artères, il y a tout un réseau sanguin qui se met en place. Ça, c'est toujours les cellules dans l'embryon. Elles ont été fécondées il y a 6 jours et elles sont déjà en train de se dire « moi, je me spécialise ». Voilà. Donc il y a différents types de spécialisation cellulaire et tout est développé par l'épigénétique. Ensuite, pendant que l'embryon se met en place, il va y avoir des messagers chimiques qui vont être produits, qui vont dire « toi, tu es sur le ventre, toi, tu es dans le dos, toi, tu es la tête, toi, tu es les pieds », de façon à ce que tout soit bien ordonné. Normalement, et que tout se développe dans les meilleures conditions possibles. Une fois qu'on est tous d'accord sur ça c'est le haut, ça c'est le bas, ça c'est la droite, ça c'est la gauche, on va voir à quelle profondeur on se situe, l'organe qu'on est censé fabriquer. Il y a beaucoup de mimétisme chez les cellules. Par exemple, si la voisine c'est une cellule musculaire, bah, je vais faire pareil, je vais devenir une cellule musculaire. Voilà. Mais on va se développer comme ça en recevant plein de signaux. Enfin, les cellules, parce que moi non, mais les cellules vont se développer comme ça en recevant plein de signaux en provenance de l'organisme qui vont leur dire « t'arrêtes de te diviser, on est suffisamment nombreuses » ou au contraire « divise-toi et puis fabrique-moi ça ». en rentrant dans un processus de différenciation jusqu'à devenir perdre leur capacité de cellule souche, perdre leur capacité pluripotente, je peux devenir n'importe quoi, pour devenir une cellule tissulaire spécifique en fonction de l'endroit où elle est. Et tout ça, c'est régulé par l'épigénétique. Oui. Alors là, il va falloir travailler sur l'espèce humaine, donc aller vérifier l'épigénétique des êtres humains, parce que sur les rats, ça va être compliqué. Je ne suis pas sûre qu'ils soient très doués avec un iPhone. Les études qu'on a, globalement, sont relativement récentes. Quand on dit récentes, là, les études que je vous ai données, hein, c'est 2014, 2017, etc. On est en train d'étudier tout ça, mais ça demande un temps fou, parce que, en fait, on émet des hypothèses, les hypothèses, elles sont testées, on s'est planté, ça ne marche pas, il faut en émettre d'autres. Ok, 3 ans plus tard, on a peut-être un résultat à publier, mais voilà, ça prend du temps. Donc, tout ça, c'est des questions qui vont forcément être interrogées par la suite. Forcément. Il y a un moment où quelqu'un va s'en préoccuper, oui. On ne sait pas. Il n'y a pas d'étude. Là, pour l'instant, on ne sait pas. Oui, sans doute. Ah oui, complètement. Oui. Mais bon, en même temps, l'épigénétique a toujours enregistré nos traumatismes depuis le néolithique. On ne le savait pas et ça marchait quand même. Enfin, ça avait lieu, quoi. Donc, oui, bien sûr. C'est juste qu'on se rencontre avec l'épigénétique que programmer l'homme parfait, comme dans Bienvenue à Gattaca, ce n'est pas demain la veille. Voilà. Oui. Dans la génétique. Là, il y a des modifications. Et puis alors même, j'aurais tendance à dire, pour certains, à l'intérieur des gènes du développement, pour certains, c'est des malformations congénitales liées aux molécules, donc il n'y a pas de transformation au niveau des gènes. Quand il y a transformation au niveau des gènes, de toute façon, les radiations vont impacter l'ADN, mais quand il y a transformation au niveau des gènes, on est dans la génétique. Il n'y a pas de raison, cependant, que ça n'ait pas un impact épigénétique, juste il n'a pas été mesuré. Oui. Ça peut être les deux, tout à fait. Bah, d'une manière générale, hein, il n'y a que 2% de gènes ciblés, que le gène sans cibler ce qu'il y a à côté, faut viser. Hein. Il y a quand même vachement plus de trucs à côté. Oui. 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 Il y a les deux. En fait, les cellules cancéreuses, elles répondent à un certain nombre de modifications, de mutations internes. Donc, notamment, tout à l'heure, on a vu, elles créent une activité télomérase qui leur permet de reconstruire leurs télomères et qui permet de les rendre immortelles. Elles inhibent les gènes répresseurs de tumeurs. Donc, elles disent « Non, mais oui, on se multiplie, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. » Vas-y, c'est bon. Elles déclenchent certains gènes qui les rendent invisibles aux yeux du système immunitaire. Donc, les lymphocytes, ils passent à côté, ils font « Non, il n'y a rien. » Alors qu'il y a une tumeur. Voilà, donc c'est, il y a tout un tas de trucs comme ça. Elles vont se dédifférencier, les cellules cancéreuses, pour pouvoir circuler dans la circulation sanguine et aller faire une autre tumeur à côté. Donc elles subissent plein de modifications génétiques et épigénétiques. Parce que tout simplement, l'épigénétique va permettre d'activer certains gènes, de désactiver certains gènes. Mais certaines cellules cancéreuses ont un nombre de chromosomes anormaux. Donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas dire qu'il n'y a que des modifications épigénétiques. D'accord ? Oui. Ça va laisser des marqueurs qui vont être plus ou moins réversibles. En fait, la chimie du corps, c'est un équilibre qui est presque permanent. C'est-à-dire que quand on se fait, on rentre dans une salle et il y a quelqu'un qui nous crie dessus, la chimie du corps, elle est immédiatement modifiée. Elle est immédiatement modifiée. On va fabriquer des trucs qui vont nous stresser. Les cellules ressentent ça, d'accord ? Mais par contre, 4 jours après, quand on est les doigts de pied en éventail sous les palmiers, on y pompe. Enfin voilà, la chimie du corps, elle est revenue à ça. Enfin normalement, on n'est plus stressé. Bon, elle est revenue à ça normal. Donc ça va laisser des marques. Ça dépend de deux choses. Un, la répétition. Est-ce que le phénomène se produit et se produit et se produit ? Il faut savoir que dans les cellules, si une modification a lieu plein de fois, le corps finit par dire « ouais, vas-y, c'est normal en fait ». Et donc il garde la modification, il arrête de la corriger. D'accord ? Et puis donc la répétition et deux, bien sûr, l'intensité. Donc par exemple, dans le cas de la dénutrition des femmes enceintes aux Pays-Bas, c'est l'intensité qui a marqué. Oui, d'accord. Méthylation de l'ADN. Alors oui. À quoi pensez-vous ? C'est rude. Peut-être. Il y avait une question, oui.
On parlait de l'embryogenèse. Je me demandais juste s'il y avait eu des études sur l'embryogenèse en implantat. Juste comme
ça. Pas à ma connaissance.
Vous avez parlé du haut, du bas, de choses comme ça, donc on pourrait envoyer des souris en implantat.
Demandez à votre voisin de devant. J'avais une question au fond de la salle. Alors ? Ah.
Oui.
D'accord, faudra aller voir du coup les résultats, ils doivent être disponibles quelque part sur le grand internet. J'avais une question au fond là-bas, non, c'est plus ? Oui. Plus ou moins répondu à la question, et donc j'en ai une derrière. Oui. Alors, il y a des gens dans la salle qui en savent plus que moi et qui répondent oui. Donc, a priori, oui. Voilà. Et ça a un impact. Ouais, mais c'est systématiquement le même impact en fait. Hein. Apparents, grands-parents stressés, gestion du stress très compliquée chez les descendants. Oui. Oula, c'est de la socio ça. Oui, mais sauf qu'en fait, quand on regarde au niveau sociétal, à l'intérieur de l'Europe, la guerre, elle a été vécue par tout un tas de populations, mais la réaction a été finalement différente en fonction de quel peuple, quel pays, quel... là, il y a, je pense, trop de faisceaux en ligne de compte pour créditer l'épigénétique de la montée des extrêmes. Voilà. Ok, je crois qu'on m'a fait signe qu'il fallait que j'arrête. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon festival.